Halloa! Välkommen till Tabloïd! Oui, on parle suédois aujourd'hui. Vous écoutez Tabloïd sur Radio U, une émission mensuelle sur les dessous de la musique. Je suis Caroline Jacques et pour cette deuxième édition, nous allons partir en Suède pour une enquête très spéciale sur l'hégémonie secrète des Suédois dans la pop. C'est un sujet d'actualité puisque on n'a jamais autant eu les yeux rivés sur la Suède que pendant cette pandémie de coronavirus. Mais avant ça, quand on pensait à la Suède, on pensait à un certain groupe. Duquel je peux bien parler? Top, je suis un groupe de disco des années 70. Mes membres comptent deux femmes, deux hommes et des costumes très étranges. J'ai même gagné l'Eurovision pour la Suède en 1974 avec le titre Waterloo, je suis... Je suis ABBA, oui! Le long de ce podcast, on va apprendre 10 faits super intéressants sur ce groupe légendaire. Et puis d'abord, pourquoi parler d'hégémonie pour un seul groupe, aussi célèbre soit-il? Ça paraît exagéré. Encore moins une hégémonie secrète ou même actuelle. Mais alors détrompez-vous, vous ingérez bien plus de musique suédoise que vous le pensez. J'imagine que vous serez familier avec au moins un de ces purs produits suédois. Et vous connaissez sûrement aussi quelques-uns de ces produits hybrides. Et ainsi, je vous disais que le produit le plus omniprésent venu de la Suède, ce n'est pas les tables à 5 euros de chez IKEA, mais un gars nommé Max Martin. Vous me croirez? Et bien pourtant, toutes les chansons que vous venez d'entendre ont été produites par ce sombre inconnu. Alors pourquoi ne connaissons pas son nom? Ça, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Alors restez avec nous pour cette enquête spéciale qui vous fera apprécier la pop d'une autre manière. Et tout d'abord, faisons-nous plaisir avec une bonne tranche d'ABBA. Ah bah dis donc! Désolé pour le jeu de mots pourri, mais il me fallait bien un petit jingle. Fait numéro 1, leurs noms sont les initiales de chacun de leurs prénoms. Oh mais non, mais je déconne, ça tout le monde le sait. Mais saviez-vous qu'ils étaient tous connus individuellement avant de former ABBA? Agneta Fälskog, la blonde et sage, était connue depuis son adolescence, puisqu'elle n'avait déjà eu son lot de hits au top suédois. Anni-Frid Lindstedt se produisait dans les groupes de jazz depuis ses 13 ans. Elle était un peu plus sensuelle et sauvage que sa collègue. Björn Ulvaeus était le chanteur des Hootenanny Singers, un groupe folk populaire. Tandis que Benny Andersson était sûrement le plus connu de tous les quatre parce qu'il était claviériste dans l'équivalent des Beatles suédois Hep Stars de 1964 à 1969. Mais numéro 2, comment se sont-ils rencontrés ? Björn et Benny se rencontrent en 1966 quand les tournées de leurs groupes respectifs se croisent. Très vite, ils deviennent amis et commencent à collaborer presque tout de suite. En 1969, ils plaquent leur groupe qui avait perdu de leur gloire pour rejoindre le label Polar Music en tant que producteur. La même année, sur un plateau de télévision, Björn rencontre la jeune et jolie Agnetha, tout juste 18 ans, lors d'un petit duo romantique ensemble, et c'est l'amour dès le premier accord. Peu après, ils se mettent en couple et se marient en 1971. Ils eurent deux enfants. D'ailleurs, Agnetha était tellement enceinte pour enregistrer Thank You for the Music en 1977 qu'elle l'a enregistré alitée. Mais oui, ils ont carrément installé un lit d'hôpital dans le studio pour que le single sorte au bon moment. C'est beau. Ils divorcent en 1979 car la pression des tournées était devenue trop forte, surtout pour Agnetha, pour qui la distance avec leurs enfants devenait insoutenable. Quant à Benny et Frida, ils se sont aussi rencontrés en tournée en 1969 et sont tombés amoureux assez rapidement, eux aussi. Mais eux avaient déjà été mariés avant et avaient chacun deux enfants avec leur ancien partenaire, chose qu'on ignore souvent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont attendu jusqu'en 1978 pour se marier et pour finalement divorcer deux ans plus tard, un an plus tard que leur compère. Pourtant, ce projet ABBA n'avait rien de sérieux au début. C'était pour le fun, pour Benny et Björn, la véritable histoire d'amour d'ABBA. C'était juste des petites collaborations avec leurs copines, quoi. En 1973, le titre People Need Love et l'album Ring Ring atteignent le top 20 suédois. Leur petit projet porte le doux nom de Björn et Benny, Agnetha et Anni-Frid, ce qui est somme toute pas facile à prononcer, donc il est vite abrégé sur les stations de radio. AABB ou BBAA, c'est pas très facile à dire non plus. Du coup, c'est Stig Andersson, le manager du groupe, qui tranche pour ABBA. Ça sonne bien et en plus, ça permet d'apparaître en premier dans les bacs alphabétiquement. C'est lui qui, les dollars plein les yeux, pousse les deux couples à collaborer toujours plus et qui organise des campagnes promotionnelles agressives. C'est aussi lui qui a écrit Waterloo, rien que pour l'Eurovision en 1974. Et en parlant d'Eurovision, ABBA a été découvert par l'Eurovision en 1974. Ça, on le sait tous. Mais saviez-vous qu'ils avaient déjà tenté leur chance l'année d'avant avec la chanson Ring Ring, mais n'avaient pas été sélectionnés? Saviez-vous aussi que la France n'a pas participé cette année-là? Eh oui, Georges Pompidou venait de mourir et ses obsèques nationales avaient lieu le lendemain. C'est vraiment pas de bol pour le candidat français Dany, qui a dû regarder la compétition depuis les gradins. L'émission est disponible sur YouTube si vous voulez la voir. J'en ai regardé des bouts pour vous, mes fidèles auditeurs. Et c'est fou comme ça a changé, côté technique en tout cas. On retrouve le même mix de variétoche et de folklore local que maintenant, mais l'électrochip et le métal en moins. En 1974 et ce jusqu'en 1994, il y a un orchestre et chaque pays vient avec son propre chef d'orchestre. Le chef suédois Sven Olof Waldorf n'aura donc pas beaucoup à faire ce soir de mai 1974, mais pour l'occasion, il s'est déguisé en Napoléon pour bien troller la France. Et ça, c'est fort. Ce trolling gentillet des Français leur réussit, apparemment, puisqu'ils arrivent premiers avec 22 points et mettent la pâtée à Olivia Newton-John de Grease, qui représentait le Royaume-Uni, mais qui est vraiment australienne.
En 1974, la Suède avec Waterloo, chantée par ABBA.
C'est donc la première victoire de la Suède à l'Eurovision, mais loin d'être la dernière. La Suède est deuxième sur le podium de l'Eurovision en nombre de victoires, 6 fois en tout. Et c'est l'Irlande qui décroche la médaille avec 7 victoires. En tout cas, la Suède a des victoires constantes à travers les décennies, alors que sa voisine, la Norvège, elle, détient le triste record d'être apparue 11 fois tout en bas du tableau. Ouch ! Ou alors, hufda, comme on dit en norvégien. Alors pourquoi est-ce que la Suède est-elle si forte en musique ? Qu'est-ce qui fait qu'un pays de 10 millions d'habitants arrive à dominer ainsi l'Eurovision et surtout les charts ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On pourrait croire par exemple que le succès d'ABBA aurait ouvert une brèche pour les Suédois et qu'ils ont inspiré d'autres artistes à tenter l'aventure sur le marché mondial. Mais il faut attendre presque 10 ans entre la gloire ultime d'ABBA et le prochain hit suédois d'ampleur planétaire. Mais alors par contre, ce hit est une bombe, attention, attention. Alors déjà, pourquoi la Suède et pas la Norvège ? Il faut savoir que la Norvège, le pays voisin, est très riche en matières premières, en pétrole et en gaz notamment. Donc plus de gens sont attirés par ce genre d'industrie et un peu moins par la musique. On dénote quand même quelques succès musicaux norvégiens tels que... Take on me. Take on me. Take me. Et Ilvis, il y a quelques années, avec « What does the fox say ?» Comme dirait Michel Sardou, ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. Alors que la Suède, qui n'a pas le pétrole, ni de matières premières, a depuis toujours mis l'accent sur les idées. Quand on pense à la Suède, on pense à Ikea, à Spotify peut-être, et à ABBA surtout. Quelle est la spécialité de ce pays nordique ? J'ai lu quelque part que la Suède ne révolutionne rien. Elle scanne tout ce que le monde fait de mieux et les réinvente pour les vendre sur un marché mondialisé. Qu'est-ce que Spotify et Ikea si ce n'est un repackaging de choses qui existaient déjà avant ? D'autres réinventions suédoises notoires sont les briques Tetra Pak, les fermetures éclairs et les ceintures de sécurité à 3 points. Eh bien, en musique, c'est la même chose. La chanteuse Robin de Dancing on My Own, elle aussi suédoise, résume bien ce talent de synthèse dans cette interview de 2018 issue du documentaire Flatpak Pop. Comme les Japonais, les Suédois ont tendance à faire une fixation sur un truc et à essayer de le réinventer plein de fois. Et à la fin, eh ben, ça devient jamais ce que c'était. Ça devient quelque chose de nouveau, une version étrange de ce que c'était avant. Prenons un autre exemple classique du redesign suédois. Même si jamais on se douterait qu'ils sont du pays du soleil de minuit. On parle beaucoup d'appropriation culturelle en ce moment et on en a beaucoup déjà parlé lors de la première émission avec les chansons d'esclaves reprises par Bonnie M. Eh bien, Cotton Eye Joe, c'est un peu la même histoire. C'est une chanson d'esclaves d'avant la guerre civile, reprise par les ménestrels pour moquer les noirs, puis reprise encore plus tard pour danser en ligne comme des cowboys, comme ici dans les années 20, enregistrée pour la première fois par Fiddling John Carson. Elle ressort en 1992 dans une version plus proche de celle qu'on connaît. Et c'est probablement celle-ci qui a attiré l'attention de trois producteurs suédois. Ils créent Rednecks, une version mal orthographiée d'une insulte à destination des white trash américains. Dans le clip, on voit quatre Suédois déguisés en rednecks, avec des chapeaux de paille, des chemises débraillées, et sont en train de danser comme des abrutis dans une grange avec des bottes de foin, un rodéo mécanique et même quelques drapeaux confédérés. Mais dans les commentaires récents sur YouTube, certains Américains prennent la mouche car ils pensent avoir été un poil caricaturés. Bon, à peine. Ah bah dis donc! Dans une interview de 2016, Björn Ulvaeus dit que si ABBA a rencontré un tel succès, c'est parce qu'ils ont pris leur inspiration de la chanson française, de la schlager allemande, des ballades italiennes et de la folk scandinave. Exemple ultime de ce mélange d'influence, Chiquitita. Fin 1978, alors que l'ABBA mania est partout, l'Amérique latine résiste stoïque. Ce qui ne plaît pas à Stig Larsson. Il commence à penser à une chanson inspirée d'El Condor Pasa de Simon & Garfunkel. Dans la version finale, Chiquitita emprunte des motifs d'Espagne mais aussi de schlager allemande, ce qui brouille un petit peu le message. Mais traduite en espagnol pour l'occasion, la chanson leur permet d'infiltrer le marché hispanophone efficacement. Chiquitita en version espagnole est premier en Argentine, tandis que la version anglophone rencontre un énorme succès partout ailleurs. Savant marketing, oui, certes, mais le saviez-vous, ABBA ne s'est pas fait tant que ça d'argent sur ce single, en tout cas moins qu'on ne le pense, car il a été présenté lors d'un concert de l'UNICEF en 1979, organisé par le manager des Bee Gees. Tous les artistes présents promettaient de donner la moitié des royalties de leur single à l'UNICEF, à vie. Donc sachez que quand vous écoutez Chiquitita, September de Earth, Wind & Fire ou Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, vous faites votre petite part pour les droits des enfants partout dans le monde. En 2014, ABBA a même décidé de donner 100% des royalties de Chiquitita à l'UNICEF. Et maintenant, on va écouter Chiquitita, hein, pour faire vivre l'UNICEF un peu.
Shamed by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself.
Chiquitita, you and I.
C'était Chiquitita d'Abba et vous écoutez Tabloïd sur Radio U, une émission sur les dessous de la musique avec aujourd'hui une enquête spéciale sur l'hégémonie suédoise sur la pop. Et comment peut-on parler de cette hégémonie justement sans parler du programme d'éducation musicale suédois qui forme quand même le terreau fertile pour les jeunes pousses. En effet, dès la primaire, les petits Suédois sont encouragés à apprendre la musique. Ils ont des cours inclus dans leur cursus, des cours axés sur les instruments, mais pas que, aussi sur la composition de chansons, tout seul et en équipe. De plus, près d'un tiers des enfants suédois reçoivent des cours de musique en dehors de l'école, des cours subventionnés par l'État, bien sûr. Vous ne savez pas quoi choisir comme instrument ? Ce n'est pas un souci, il existe un système pour louer des instruments au lieu de les acheter. Pratique! Pas étonnant qu'ils aient une longueur d'avance sur nous, avec nos pauvres cours de flûte à bec. Ah bah dis donc! Alors, fait numéro 5. Les Australiens sont probablement les plus gros fans d'ABBA qui soient. En 1974, quand ABBA gagne l'Eurovision, on n'attend pas grand-chose d'eux. En effet, la plupart des gagnants de l'Eurovision sont des One Hit Wonders, qui sont déjà oubliés via la nouvelle édition. Passé la folie de Waterloo, les Européens n'attendaient plus rien de leurs anciennes coqueluches. Ils ont tenté de revenir avec I Do, I Do, I Do, I Do, sans grand succès. Et c'est l'Australie qui sort ABBA de leur traversée du désert en 75. Il commence à passer le clip de Mamma Mia à la télé et quelques semaines plus tard, ABBA est premier au top 40 australien. Les Britanniques se demandent bien pourquoi ABBA marche bien là-bas, aux antipodes. Et croyant ABBA mort depuis l'Eurovision, ils sortent SOS, une petite touche d'humour, et la machine est lancée au Royaume-Uni. Je ne peux que vous conseiller de voir l'excellent film australien Muriel sur une fan absolue d'ABBA qui quitte son village du Bush pour mener une vie plus grandiose à Sydney.
You're terrible, Muriel.
Mention spéciale pour la Corée Waterloo en costume blanc et perruque. Et ça nous amène directement à notre fait numéro 6. Ah bah dis donc! Ils utilisaient leur garde-robe pour payer moins d'impôts. Björn Ulvaeus a révélé dans un livre que le style kitsch du Quatuor a été en partie influencé par une niche fiscale suédoise. Une loi leur permettait en effet de déduire de leurs impôts le coût de leur costume, à condition que ceux-ci soient trop excentriques pour être portés dans la rue. Bon, maintenant, fait numéro 7. Passons à l'aspect technique du son ABBA. Ils sont connus pour leur savante combinaison d'instruments acoustiques et de synthétiseurs, mais ce qui fait la puissance de leur son, c'est l'utilisation de la technique dite du Wall of Sound, ou mur de son en français. Une technique de production créée par le producteur Phil Spector, que l'on retrouvera pour le prochain numéro spécial Noël. Cela signifie que l'arrangement d'ABBA n'est pas seulement une formation de groupe typique, mais un ensemble de plusieurs dizaines de pistes superposées pour créer un son plus riche. Les guitares sont doublées, ainsi que les voix des femmes, et certains instruments sont boostés électroniquement en post-production. Ce son à bas très manucuré va fortement inspirer la prochaine vague de producteurs suédois, en commençant par la scène underground des clubs de Stockholm. Et c'est là qu'on retrouve notre prochain protagoniste, un certain Dennis Pop. Dennis Pop, Dag Christer Bolle de son vrai nom, est un des rares Suédois qui a réussi à sortir de l'école sans apprendre d'instrument de musique. Mais il compense bien sa tare avec une maîtrise parfaite des platines. Dès 1985, il fait partie d'un collectif de DJ qui anime les longues nuits froides de Stockholm. Leur idée, prendre des chansons qui cartonnent ailleurs pour les refaçonner à la manière suédoise, avec des mélodies simplifiées. Mais en 1994, le remix de Show Me Love par Dennis Pop rencontre un certain succès aux États-Unis. Ce succès et les tendances vraiment très pop de l'ami Dag ne plaisent guère à ses collègues du label, qui regardent la musique passée à la radio comme trop mainstream et le mot pop comme un gros mot. Il abandonne son nom maternel pour Dennis Pop afin de prier au monde son amour pour cet art mercantile. Très vite, il ouvre son propre label, Kairon, dans un petit studio du centre de Stockholm. Il réunit avec lui une petite équipe de producteurs avec la même ambition que lui, créer la chanson pop parfaite. Un jour, un groupe obscur lui envoie une cassette, Mr. Ace. Dennis Pop la met dans son autoradio et elle reste coincée pendant plus de 2 semaines là-dedans. Mr. Ace passe en boucle et ça rend dingue Dennis. Il décide donc d'appeler le groupe et de la remixer à sa manière. Son expérience en club lui a fait comprendre une chose. Que les mélodies et les refrains les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux. Du coup, il retire tout ce qui n'est pas nécessaire de la chanson, comme le rap au début par exemple, et il affine le rythme reggae. Résultat, All That She Wants est premier dans 13 pays. Et l'album The Sign bat tous les records avec 25 millions d'exemplaires vendus en quelques semaines. Il est sur le point de devenir l'artiste le plus rentable de Suède depuis ABBA. Mais Dennis Pop a un autre don particulier. Un don pour dénicher et développer les talents de producteur chez des personnes inattendues. Prenons un certain Carl Martin Zandberg, celui qui deviendra le poulain préféré de Dennis. En 1992, il est le chanteur d'un groupe de glam metal, It's Alive, un groupe signé par Kairon, et bon, ils ont du mal un peu à décoller. Et Carl, qui s'entend bien avec Dennis Pop, et il a un terrible secret, il adore la pop. Dennis, qui voit en lui un avenir flamboyant, va le convaincre de le rejoindre aux platines et va tout lui apprendre durant un apprentissage de 2 ans. Comme son mentor, il opte pour un nom qui sonne plus pop, Max Martin. La différence majeure entre les deux hommes, c'est que Max a reçu une vraie éducation musicale grâce au programme gouvernemental, justement. Et donc, il peut vraiment créer des chansons de toutes parts et puis écrire les partitions, tout ça. Dennis Pop lui donne la tâche de créer le prochain big hit de Kairon Studio. Et c'est pas avec n'importe qui, mais avec Robin, dont je vous avais parlé plus tôt. Robin a tout juste 15 ans quand elle débarque dans le bureau de Dennis. Et Max, tout jeune producteur, est toujours en train d'expérimenter son son. Le single Show Me Love et l'album associé fait un carton planétaire en 97. Grâce à ce succès, les maisons de disques du monde entier commencent à envoyer leurs artistes à Stockholm afin de donner à leur musique le son distinctif de Kayron. Alors que la tendance à la radio allait plus vers le R&B ou le grunge au début des années 90, le succès incroyable des Spice Girls va ouvrir la voie à une pop plus manufacturée que jamais. C'est à ce moment que 5 gars hyper motivés débarquent à Stockholm de Floride. Les Backstreet Boys ont été modelés par Max Martin et Dennis Pop, tant sur la musique que sur leur image. Selon les dires des Backstreet Boys eux-mêmes, ils les poussent à améliorer leur capacité vocale afin de faire honneur à leur mélodie de plus en plus complexe. En 1998, la folie Backstreet Boys s'abat sur le monde. Les fans s'amassent et l'argent aussi. Et ça, ça ne plaît pas aux Suédois et à leur fichue loi de Jante. Alors, la loi de Jante, c'est assez simple. C'est une loi tacite venue de Norvège qui interdit à l'individu de se mettre en avant par rapport à la collectivité. Donc c'est interdit de se la péter, c'est interdit de montrer qu'on a plus d'argent que d'autres, interdit de penser qu'on est mieux que d'autres. Du coup, ils préfèrent rester dans l'ombre plutôt qu'affronter la sévère opinion publique. Au sommet de la gloire des Backstreet Boys, ils signent dans la foulée un autre boys band censé être leur némésis juré. Et c'est bien sûr NSYNC, l'ancien groupe de Justin Timberlake. Bye 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 est la réplique suédoise au tube des Destiny's Child Bills Bills Bills. Et peu après, une certaine Britney Jean Spears rentre dans l'arène. Attention. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'ABBA, non? Ah bah dis donc! Alors, bien qu'il ne se dise pas grand fan d'ABBA, Dennis Pop tient une partie de sa formule du hit parfait de la chanson The Name of the Game. It's the name of the game. Par exemple, juste avant le troisième refrain, il fait connecter celui-ci avec le couplet, afin de créer une tension énorme. Et quand ce refrain revient une dernière fois, on a une superposition de au moins deux pistes pour créer un son beaucoup plus riche. Avec des adlibs pour des karaokés plus passionnés. Alors, les adlibs, c'est toutes les petites parties improvisées par l'artiste qui donnent un peu de texture à la chanson. Comme ABBA, chez Kayron, on commence par composer la structure principale de la chanson, son rythme et ses mélodies. Puis, on lui accole des paroles plus ou moins adaptées. C'est la méthode track and hook, inventée par les producteurs de reggae jamaïcains. Ils créaient des rythmes ou rythmes et invitaient des chanteurs bourgeonnants à y apposer leurs mélodies et leurs paroles. La meilleure candidature était alors retenue pour le single. Chez Kayron, on parle de producteur et de top liner. Le producteur pose les beats et la suite des accords de base, et le top liner écrit la mélodie et souvent les paroles qui vont dessus. La priorité va donc vers la mélodie et le beat, et les paroles sont secondaires. Pour le public non anglophone comme nous, le manque de sens des paroles ne pose pas beaucoup de problèmes, mais elles sont souvent raillées par la critique dans les pays anglophones. L'exemple le plus frappant de cette dissociation linguistique est bien... sonne comme une apologie de la violence conjugale adolescente, alors que Max Martin voulait juste dire « hit me up », ce qui veut dire « passe-moi un coup de fil ». Une pauvre préposition peut tout changer en anglais. Vous êtes sur Radio U et vous écoutez Tabloïd. Quand Britney Jean Spears débarque à Stockholm au printemps 98, elle a tout juste 16 ans. Sortie des studios de Disney, elle a été envoyée par sa maison de disques Jive Records afin de la pimper en mode suédoise. Sur les 11 chansons de l'album, 8 sont écrites par les disciples de Dennis Pop, mais celle qui révolutionnera son pop des années 2000, c'est bien sûr Hit Me Baby One More Time. Le single est arrivé en premier dans tous les pays où il est sorti, à part en Islande, pour une raison que l'on ignore. Mais au même moment où leur dernière création connaît la gloire interplanétaire, un drame s'abat sur Kairon Studio. On trouve à Dennis Pop une tumeur agressive à l'estomac. Il continue à travailler pendant un temps, mais le légendaire Dennis Pop succombe quelques mois plus tard, le 30 août 1998, à l'âge de 35 ans. Très vite, après la mort de Dennis Pop, les poulains de Dennis doivent retourner au travail. Kairon devient une machine un peu trop bien huilée, ils pondent des tubes sans trop y penser. Ils ont enfin atteint la domination des charts mondiaux, mais sans leur leader, ils sont comme sans âme et sans vie. À la fin de 99, les 8 poulains de Kairon décident de fermer l'écurie et vont répandre la sauce Dennis Pop chacun de leur côté. Mais là où un destin incroyable s'achève, un autre commence. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de Annifrid Lyngstad. Ah bah dis donc ! Elle est née dans le nord de la Norvège en 1945, d'une mère norvégienne et d'un père sergent dans la Wehrmacht. Il serait décédé dans le naufrage d'un navire allemand en rentrant à la fin de la guerre. En 1947, de peur des représailles par les résistants norvégiens contre les femmes qui avaient un peu fricoté avec les Allemands, Frida, sa mère et sa grand-mère quittent la Norvège pour la Suède. Frida a tout juste 2 ans. Oh. Très peu de temps après, sa mère meurt d'une insuffisance rénale, laissant la petite Frida à la charge de sa grand-mère. Celle-ci travaille comme couturière pour payer les factures et chante de belles chansons à sa petite fille pour l'endormir. Frida développe un talent musical dès très jeune et commence à se produire en concert dès l'âge de 13 ans. D'abord dans un groupe de schlag, puis dans des groupes plus jazzy. À 22 ans, elle gagne un concours de chant national. La récompense est de se produire en direct à la télé le soir même. Sauf que c'est le jour où la Suède, qui conduisait à gauche jusqu'alors, passe à la droite. Il est fortement déconseillé de conduire ce jour-là. Du coup, toute la Suède est devant la télé et la carrière de Frida explose. En 1977, au summum de sa célébrité, le magazine Bravo révèle que son père n'est en fait pas décédé, mais est simplement rentré en Allemagne et a fondé une nouvelle famille là-bas. C'est son fils, à lui, qui la contacte et elle rencontre son père pour la première fois plus tard, en 1977. En 1988, elle rencontre Heinrich Rousseau de Reuss, le prince d'une principauté qui existait jusqu'en 1918. En 1999, à la mort de son mari, Frida devient même princesse. Après avoir fait partie d'un des groupes les plus salués de tous les temps, et en étant née comme pestiférée. Et ça, si c'est pas une biographie de dingue, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, chapeau bas, Frida. Chapeau bas. Revenons à nos moutons maintenant, enfin à nos poulains. Après la mort de Dennis Pop, tous se dispersent dans le monde de la musique et continuent de travailler pour les grandes pointures de l'industrie. Max Martin monte son propre studio, Marathon Studio, à Stockholm en 2001 et compose pour les pop stars actuels. Mais on sent que le vent tourne. La formule suédoise commence à s'essouffler. La preuve, Britney n'a choisi que 3 chansons de Marathon pour son deuxième album en 2001. Les virginaux I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, Cinderella et Overprotected. Et il faut un petit peu pâle face au rythme sensuel de Pharrell Williams et son label Neptune, qui a signé le premier single de cet album, Slave for You. Faut attendre 2008 pour le retrouver au top des charts avec I Kissed a Girl et Hot and Cold de Katy Perry. Avec l'aide du producteur DJ Luke et une toute nouvelle recette, il repart à l'assaut des charts américains et mondiaux. Et cette fois, on ne pourra pas l'arrêter. Max Martin semble avoir craqué le code de la musique pop et il appelle ça les maths musicales. Il n'empêche que sa recette marche puisque son nom est présent sur 23 titres se classant numéro 1 top américain. Quand même 70 titres si on élargit au top 10. Et ça fait de lui le recordman du monde des premières places dans ce classement après Paul McCartney et John Lennon, rien que ça. Et ça c'est absolument dingue parce que personne n'aura autant influencé la pop que lui ces dernières années et pourtant, personne ne connaît son nom. En fidèle disciple de la loi de Yonte, Max Martin reste dans l'ombre. Il sort rarement de sa cachette, à part une fois en 2016 à Stockholm, où il était venu montrer son petit minois timide et ses longs cheveux d'ancien métalleux sur la scène du Stockholm Concert Hall. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va lui décerner le prix du Polar, le The Music Polar Prize, l'équivalent du prix Nobel de la musique. Pour info, d'autres gagnants de ce prix sont Bob Dylan, Stevie Wonder, Elton John, Paul McCartney. Ouais. Mais avant qu'on lui décerne ce prix, on a droit à un petit discours de bons amis de Max Martin, les Backstreet Boys. Et franchement, c'est trop émouvant.
And Max, you changed our lives.
Il le remercie un à un pour leur carrière dans la musique. Difficile pour Max Martin de retenir son émotion. Une fois sur scène, il préfère prendre le ton de la blague.
You blew my cover.
I managed to hide between two speakers in a basement for over 20 years.
Vous avez grillé ma couverture. Ça fait 20 ans que je me cache dans des studios en sous-sol.
I have to start with the late Dennis Pop. He made me realize.
Dans son discours d'acceptation, il remercie tantôt Dennis Pop, tantôt le programme d'éducation musicale suédois. Au moins 30 personnes devraient être sur cette scène, dit-il modeste. Autant on avait parlé d'une enflure au dernier épisode avec Franck Farian, autant Max Martin est quelqu'un qui a tout mon respect. Il est drôle, humble et à voir l'émotion de ses anciens collaborateurs pendant le Polar Prize, il semblerait qu'il soit également un vrai bon boss. Il prend maintenant le rôle de mentor dans sa petite écurie de Los Angeles, dont une certaine Tove Lo fait partie. Après, on peut penser tout ce qu'on veut de sa musique, qu'elle est superficielle ou même artificielle, mais il y a quelque chose de fascinant, je trouve, à ces gens qui trouvent le code pour faire vibrer des millions de personnes. C'est un niveau supérieur de compréhension de l'espèce humaine qui m'impressionne au plus haut point. Comment ça, j'oublie une info sur ABBA ?
Ah bah dis donc !
Est-ce que vous saviez que ABBA va bientôt refaire une tournée ? Mais bon, ne vous excitez pas trop. Ils ont choisi l'option Jean-Luc Mélenchon, avec des hologrammes. Et donc ces quatre hologrammes danseront sur les musiques d'antan. Les mimiques, les chorégraphies et les corpulences de chacun seront copiées d'un concert de 1978. Bon, je reste un petit peu dubitatif quand même. Et c'est là-dessus que je vais clore cette enquête spéciale Suède. J'espère que cette émission vous aura inspiré à faire un peu plus attention aux Suédois dissimulés dans vos playlists. Alors, est-ce que c'est leur éducation musicale, leur héritage de la pop, ou bien le mauvais temps qui les a rendus si doués en musique ? Eh bien, on le saura pas. Mais il n'empêche qu'ils semblent incroyablement forts pour transmettre leurs émotions à travers la musique. Et pour se quitter sur une douce note, je vous laisse écouter les chaudes harmonies des sœurs de First Aid Kit, tristement connues en France pour avoir une chanson dans la pub Renault. Leurs albums ont été la bande-son de la plupart de mes road trips et de chacun de mes hivers. On se quitte avec Come Give Me Love, une reprise de Ted Gildestad. Et en suédois, s'il vous plaît. Et vous savez qui c'est qui a produit et fait les chœurs sur l'original de 73 ? Eh ben, c'était ABBA. Donc la boucle est bouclée. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'émission est réécoutable sur le site Radio U, rubrique tabloïd. Partagez-la avec tous les fans de musique que vous connaissez. Et nous, on se retrouve le 21 décembre avec une émission spéciale Noël et une bonne portion de scandale. Hej då folk!
Jag vet en vän som bor i huset intill. Och hon har lovat mig allt vad jag vill. Jag vet en vän som är lika blåögd som jag. Vi borde få det bra när mina fingrar inte känner mer, när mina ögon inte längre ser, när livet vänder, ska jag ännu be. Kom, ge mig världen, kom, ge mig fred. Kom, sänk ditt huvud och lägg dig ner. Kom, ge mig kroppen. Vi ska